Le saviez-vous? Archimax, c'est 10 magazines par an, des guides pratiques, des podcasts, des vidéos et des livres blancs. Mais c'est aussi 5 newsletters gratuites. Retrouvez d'abord l'ensemble des actualités incontournables de la semaine tous les lundis matins dans la newsletter hebdo d'Archimag. Mais ne manquez pas le bibliothécaire innovant, l'archiviste augmenté, le push du veilleur et le brief de la démat. 4 newsletters thématiques gratuites dédiées à vos métiers et aux problématiques que vous rencontrez sur le terrain. Abonnez-vous vite aux newsletters d'Archimag pour les recevoir chaque semaine dans votre messagerie.
Archimag, le magazine des professionnels de l'information.
Il ne faudrait pas considérer l'IA comme un outil magique qui fait tout, hein, toujours le fantasme du magicien, hein, le bouton magique qui va tout faire, bien entendu. Et finalement, tant mieux, l'humain a encore beaucoup d'intérêts et de compétences dans le domaine.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Sivagami Casimir, journaliste pour le magazine Archimag et je suis en direct du salon Documation. Pour poursuivre notre série spéciale avec Bruno Texier, journaliste de la rédaction, nous nous sommes intéressés à l'évolution de l'IA et plus particulièrement de l'IA générative dans le monde de la veille. Michael Réau, fondateur et PDG de SindUp, nous propose de revenir sur les apports de cette technologie.
Elle apporte surtout un gain de productivité. À partir du moment où c'est bien utilisé, en connaissance de cause, ça permet de gagner du temps et de faciliter en amont la définition des besoins, de se challenger, de travailler l'arborescence de son plan de veille, notamment, ou de faciliter la définition des équations de recherche dans une plateforme. Ensuite, sur le processus d'analyse au quotidien, c'est un gain de productivité sur la capacité, même si on pouvait le faire avant avec l'analyse sémantique, mais là, c'est en termes de coût, de puissance, un cran encore au-dessus sur l'extraction d'informations qualifiées pour faire de la base de données structurée à partir d'une veille qui, elle, est sur de l'information par nature hétérogène et déstructurée. Il y a un gain de productivité sur la capacité à faire des résumés, à faire de la traduction, à pouvoir faire un début d'analyse, parce que l'intérêt de l'IA générative, c'est de pouvoir mettre des éléments de contexte dans un prompt, et donc de ne pas être simplement sur du résumé qui serait le même pour tout le monde, mais d'avoir un résumé d'analyse qui prend le point de vue de l'enjeu stratégique de l'organisation, donc finalement le travail d'un analyste. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est de l'utiliser pour ce que c'est, à sa juste place, de ne pas le voir comme un outil de substitution, mais plutôt de l'intelligence auxiliaire qui vient faciliter le travail.
Depuis quelques années, les outils basés sur l'IA se développent de manière exponentielle. Véronique Mesguich, consultante et formatrice spécialisée en veille stratégique, nous propose de découvrir quelques solutions pratiques.
Évidemment, on parle beaucoup de ChatGPT, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Hein. Donc, c'est important déjà de connaître les points forts et les limites de ChatGPT lui-même, qu'on va utiliser de moins en moins souvent directement, parce qu'il va être de plus en plus intégré dans d'autres outils. Alors, il y a déjà les concurrents de ChatGPT. Hein, il y a Google, évidemment, a riposté avec Google Bard, qui s'appelle donc maintenant Gemini, hein, qui est puissant et qui soutient la comparaison. Il y a des IA qui se veulent aussi plus éthiques, hein, comme Claude, dont on parle beaucoup. Hein, Claude 3 est sorti il y a quelques jours et je l'ai testé, hein, et je pense que ça vaut le coup. Alors, il est difficile de l'utiliser en France, hein, pour, entre autres en raison du RGPD, mais on peut l'utiliser via des robots conversationnels. C'est une IA vraiment puissante et intéressante, hein, et qui se veut plus éthique que les IA d'OpenAI ou de Google. Sinon, alors, il existe une foultitude d'outils qui sont basés ou qui intègrent ChatGPT ou d'autres IA d'ailleurs, des outils de traitement. Alors, je peux en citer quelques-uns, mais il y en a plein, hein, donc c'est désolé pour tous ceux que je ne citerai pas. Il existe hein, des solutions qui permettent de résumer des documents, par exemple des documents PDF comme umata.ai, des outils qui permettent de créer des petites bases de connaissances et de synthétiser plusieurs documents comme GetCody, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Il commence à y avoir pas mal d'outils aussi dédiés au contenu scientifique et techniques, hein, aux articles de revues académiques. On peut citer Elicit ou SciSpace ou Consensus, hein, qui vont utiliser l'IA pour synthétiser les résultats les plus pertinents suite à une recherche, ou même pas forcément une recherche au sens classique du terme, ou même un prompt hein, sur un sujet scientifique. On aura les références d'articles, mais en plus une synthèse des principaux résultats. On peut aussi tester les IA génératives pour aussi tout l'aspect multimédia, pour par exemple synthétiser, résumer le contenu d'une vidéo YouTube. Il existe par exemple une extension de navigateur qui s'appelle Clarity, qui permet à partir de la retranscription d'une vidéo de synthétiser et de déterminer les moments forts, les highlights de la vidéo.
Avec l'évolution de ces outils et de leur puissance, quel sera le sort des veilleurs? Pour Véronique Mesguich, la réponse est claire.
Je ne pense pas que les professionnels de l'information vont être remplacés par des algorithmes, mais ils risquent d'être remplacés par des personnes qui maîtrisent ces algorithmes, c'est plutôt ça. Donc ils doivent effectivement connaître ces outils, les tester, connaître leurs points forts mais aussi leurs limites, accompagner les utilisateurs, comme on le fait avec Google par exemple. Google, tout le monde l'utilise, mais qui est-ce qui l'utilise bien? Il y a finalement peu de gens. Et je pense que ça va être pareil avec les IA. Je pense que la majorité des utilisateurs vont les utiliser de façon un peu superficielle et qu'il y aura besoin de professionnels pour former, accompagner, vérifier et se concentrer sur des tâches nobles. Et donc c'est pour ça que je reste optimiste sur l'évolution de ces métiers. En revanche, hein, malheureusement, et le cas d'Onclusive le prouve, hein, même si bon, l'entreprise a un peu temporisé, le plan social est toujours là, il a été annoncé à nouveau en janvier. J'ai entendu dire d'ailleurs que les salariés essayaient justement de prouver leur valeur ajoutée hein, par rapport aux IA et c'est difficile face à parfois des directions qui parfois peuvent utiliser l'IA comme prétexte pour faire des licenciements, disons, pour des questions de rentabilité. Donc c'est là où je pourrais apporter une note de pessimisme dans ce monde complexe et tellement imprévisible. Il y aura, c'est malheureusement possible, qu'il y ait aussi de la casse sociale. Je le déplore, mais ce n'est pas exclu.
Si le métier de veilleur n'est pas voué à disparaître, comment les professionnels doivent-ils se placer par rapport à l'IA? Éric Berthelottier, responsable business development de KB Crawl, rappelle que l'IA générative n'est qu'un outil.
On considère que le veilleur n'est pas qu'un technicien, c'est aussi quelqu'un qui a un savoir et qui doit s'appuyer sur nos solutions pour faire connaître son savoir, finalement. On considère que l'intelligence artificielle générative, telle qu'on la conçoit, n'est qu'un support pour permettre au veilleur d'être encore meilleur. On va le dégager, finalement, sur des tâches qui peuvent être chronophages, qui n'ont que, finalement, peu de valeur, parce que finalement, faire un résumé, c'est pas ça qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, ça va être d'obtenir ce résumé et à partir du résumé, pouvoir dire « Ok, nous, on est dans ce contexte-là et donc cette information, elle est importante parce que... » Donc, l'idée, c'est vraiment de lui donner plus de temps pour la mise en perspective, pour la contextualisation de l'information qu'il a captée grâce à nos outils et c'est là qu'elle est la valeur. Donc, on est vraiment dans l'idée que c'est un support, c'est pas du tout un outil qui vise à remplacer. On est sur une fonction support de l'activité du veilleur pour lui donner encore plus de valeur. Et qu'on le perçoive aussi au sein de la hiérarchie, finalement, différemment. Qu'on ne perçoive pas simplement que c'est quelqu'un qui a capté une info et qui fait juste le relais en la rediffusant. C'est quelqu'un qui a pris une information, qui a eu le temps de l'analyser, qui a eu le temps de contextualiser l'information et qui finalement nous transmet une information sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer directement pour prendre les bonnes décisions. On est bien dans ce concept-là. Il est vrai que l'IA, elle génère. On parle d'IA générative, elle va générer du contenu et il peut y avoir des biais à cela. C'est la manière dont on a finalement éduqué l'IA qui peut avoir pour le coup des biais. C'est-à-dire qu'un set de données qui est traité par une IA peut avoir une sortie finalement qui va être différente d'une IA à l'autre avec une orientation qui est donnée en fonction de la manière dont on a éduqué l'intelligence artificielle. D'où l'importance effectivement que le veilleur ait cette prise de recul finalement de manière à dire attention, là, l'IA nous dit ça, mais il faut pondérer par tel et tel moyen, parce qu'il y a tel et tel élément. Et moi, mon intelligence, elle me dit que voilà, il faut prendre ça, mais le mettre également en perspective et raisonner finalement certaines informations qui sont produites par l'IA.
Si l'intelligence artificielle soulève des questions éthiques et sociétales, le coût environnemental de cette technologie ne doit pas non plus être négligé. Michael Réau met aussi en garde contre les impacts négatifs de l'IA générative.
Notre métier en tant qu'éditeur de solutions, c'est d'avoir un devoir de conseil. Donc on n'est pas là pour dire aux clients il faut ou il ne faut pas utiliser l'IA, mais plutôt pour documenter à travers toutes les expérimentations que l'on mène, les risques, les opportunités, les avantages, les inconvénients. Et ensuite, d'accompagner le client par rapport aux besoins et à l'objectif qu'il met en avant, de mettre en face les solutions les plus appropriées. Et ce n'est pas toujours la même réponse en fonction du projet et du besoin. Il peut y avoir parfois une réponse totalement inadéquate dans certaines situations, mais qui va se révéler être la bonne approche pour un autre type de projet ou de traitement. Donc déjà, faire attention de ne pas être dans le dogmatisme par rapport à l'IA et en transparence. Et effectivement, sur les IA génératives, parce que l'IA, on en fait depuis très très longtemps. Là, l'actualité, c'est plutôt l'IA générative, les LLM avec la puissance de calcul et la course à l'armement qui est en cours, qui crée une situation nouvelle et particulière. Et quand on regarde les impacts environnementaux dans un premier temps, on s'aperçoit que les premières études, alors, il faut voir comment ont été construits ces chiffres évidemment, mais ça donne quand même des ordres de grandeur. Et quand on voit les universités qui ont travaillé dessus, il y a quand même une certaine crédibilité. On serait a priori sur un demi-litre d'eau douce consommé en termes d'équivalence pour 25 questions posées à un ChatGPT OpenAI. Quand on parle de CSRD, de double matérialité, et demain de la valorisation des entreprises dans leur système comptable, qui tiendra progressivement compte d'un point de vue réglementaire des ressources qui aujourd'hui ne sont pas prises en considération mais qui sont des impacts pour autant bien réels, eh bien ça va petit à petit créer une sorte de contradiction entre les politiques RSE qui vont commencer à être chiffrées, à être contraignantes, et des usages qui sont en train d'exploser sans trop, en fait en mettant un peu la poussière sous le tapis, parce que s'il y a assez peu de communication ouverte des gros acteurs industriels de l'IA. Mais à partir du moment où tout ça va être pris en considération dans les politiques de gestion des entreprises, ça peut tout d'un coup être très difficile de revenir en arrière si on crée une dépendance trop forte et de se dire tout d'un coup, on prend en considération que 25 requêtes égale un demi-litre d'eau douce. S'il y a une valorisation économique de cette consommation en eau, voire même peut-être des quotas à horizon 10-20 ans, comment on retombe sur nos pieds? Donc il faut l'anticiper. C'est aussi le métier de la veille et de l'intelligence économique que d'anticiper. Donc il faut se l'appliquer à nous-mêmes et ne pas foncer tête baissée en ne prenant pas en considération toutes ces composantes. L'ARCEP, l'ADEME ont fait un très beau rapport très étayé sur le numérique et ses impacts à horizon 2030 et 2050. Quand on regarde aujourd'hui les projections et qu'on se documente un petit peu, notamment sur le secteur minier, on voit bien que l'équation ne passera pas. Donc il va y avoir une phase de rectification. La courbe exponentielle va être cassée à un moment donné par des contraintes physiques qui sont là, qui sont documentées, qui sont réelles. Et quand cette courbe va être cassée, ça va coûter plus cher. Ça va être peut-être restreint en termes de volumétrie. Donc attention à ne pas créer trop de dépendance trop vite et surtout à utiliser cette IA générative comme auxiliaire avec un plan de reprise d'activité. C'est-à-dire qu'il faut que les dispositifs de veille d'intelligence économique puissent tourner si on débranche l'IA. Par contre, si on l'active, on gagne du temps sur un certain nombre de tâches et pourquoi pas, mais en tenant compte de ces impacts que j'évoquais. En eau, on pourrait parler en carbone. La mise à jour d'un modèle de OpenAI, c'est considéré par différentes grandes universités comme l'équivalent de 205 allers-retours Paris-New York en émissions de carbone. C'est en termes énergétiques l'équivalent de la consommation annuelle de 100 foyers américains. Ça coûte $700,000 quand même à Microsoft par jour. Donc il y a une forme de dumping aujourd'hui économique et social qui va à un moment donné créer là aussi une correction économique. Les coûts actuels font que leur évolution demain détermineront la pertinence de l'utiliser plus ou moins. L'exemple que je donnais tout à l'heure nous a montré que pour $1,25 on gagnait 2 heures. Peut-être que le $1,25 en question dans 10 ans coûtera plus cher que de revenir à un traitement manuel, pourquoi pas. C'est une question en fait qui n'est pas tranchée, il faut en tout cas l'avoir à l'esprit.
Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.